Chers amis auditeurs de Radio B, bonjour, la radio des bonnes ondes. Vous êtes dans l'émission Musique au pluriel, animée par Paul Turchet et Bruno Point, moi-même. Et donc, nous entamons aujourd'hui notre deuxième émission sur le grand compositeur du 19e siècle que fut Johannes Brahms. La première, nous avons essayé de vous dresser sa biographie. Et nous vous avons présenté des œuvres pour piano notamment. Et aujourd'hui, nous avons consacré cette émission à la musique concertante, la musique orchestrale et la musique pour chœur. Sans nous attarder sur sa biographie, puisque cela a été traité dans la première émission. Nous allons démarrer par... une magnifique œuvre pour orchestre, les variations sur un thème de Haydn, qui pose bien le talent d'orchestrateur et de constructeur, je dirais, de Brahms. Car vous le verrez peut-être encore plus que dans la première émission, nous avons face à nous un édificateur, un constructeur. Ses œuvres sont charpentées et elles sont très riches harmoniquement, mais aussi vraiment charpentées. Écoutons quelques variations sur un thème de Haydn et bien sûr en exergue le thème lui-même. Thank you.
l'œuvre concertante de Brahms n'est pas très importante, mais elle a une densité absolument sans pareil. Brahms a écrit deux concerti pour piano et orchestre que Bruno va vous présenter. Il a écrit un concerto pour orchestre et violon-violoncelle, qui est extrêmement original et très beau. Et puis, il a écrit un concerto pour violon. Toute l'œuvre concertante et symphonique de Brahms est mûrement réfléchie, pensée, retravaillée, présentée à ses amis, jouée en réduction au piano, etc. C'est une sorte de rumination permanente. Et il en ressort, bien sûr, des chefs-d'œuvre. Nous allons écouter le premier mouvement du concerto pour violon, œuvre qui fut à l'époque pas très bien accueillie, mais en tout cas une œuvre techniquement très difficile pour sa partie de violon. On a pu dire même que c'était un concerto, ce n'est pas un concerto pour violon, mais un concerto contre le violon. Et puis, avec des jugements à l'emporte-pièce, comme seul Debussy en était capable, qui a traité ce concerto de monopole de l'ennui. Bien non, nous ne nous ennuyons pas. Ce concerto a été joué en 1879 par le grand ami violoniste de Brahms, Joseph Joachim. Et cet opus 77, comme toute son œuvre symphonique et même son œuvre pour piano, est empreinte d'une immense richesse mélodique et d'une splendeur orchestrale qui révèle un sens de l'harmonie sans pareil. Écoutons ce premier mouvement. Thank you.
après ce concerto qui a été créé par le grand ami de Brahms que fut Joseph Joachim, eh bien Joseph Joachim va lui diriger l'orchestre pour la création du premier concerto qui a été écrit en 1850, qui a été, disons, initié en 1854 sous les conseils de Schumann, grand ami que venait de connaître Brahms. Schumann qui va inciter Brahms à écrire pour l'orchestre. Quelle préscience de sa part, puisque Brahms ne lui produisait à l'époque que des, enfin non pas que, mais des partitions pour piano. Eh bien, Schumann va sentir les qualités de charpentier, de charpente, de constructeur de Brahms. Mais le public ne fut pas conquis. À l'image du concerto pour violon qui a surpris, eh bien le concerto numéro 1 va encore plus surprendre parce qu'il n'est pas dans la lignée à l'époque des concertos, je dirais, plus brillants. Il y a beaucoup de un jeu de piano extrêmement différent de tout ce qui a pu être écrit auparavant. Nous allons écouter le mouvement lent, enfin un extrait du mouvement lent de ce concerto qui, alors là, montre vraiment la qualité élégiaque et la qualité d'intériorité de Brahms.
Thank you.
Il a été dit, à juste titre, que Brahms était le pendant de Beethoven dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. Et là, en écoutant ce concerto, on ne peut que se souvenir des concertos de Beethoven, et notamment du quatrième, avec des moments aussi élégiaques et surtout cette puissante sensation qu'un message est délivré. Le concerto numéro 2, lui, il a fallu attendre 30 ans pour que Brahms, après l'échec du premier, l'écrive. Et c'est à nouveau un ami qui va l'assister, ou plus exactement participer aux répétitions. Il s'agit d'Hans von Bülow. Hans von Bülow, personnage musical considérable de cette époque, qui avait été, par ailleurs, le monde est petit, hein, autour de Brahms, autour de ses amis, qui avait été l'élève de Wieck, le père de Clara Schumann, qui a épousé Cosima Wagner, la fille de Liszt. Enfin, qui a épousé, j'ai dit Cosima Wagner, parce que justement, elle a quitté Hans Bülow. Et on l'appelle souvent Cosima Wagner, mais au départ, c'est Cosima, la fille de Marie Dagout et de Liszt. Et Bülow, on peut parler de lui, là, parce que finalement, il fait un petit peu la synthèse entre ce qui a été qualifié à l'époque les courants musicaux, à la fois Brahms qui serait classique, je viens d'évoquer Beethoven, et Liszt qui serait moderne. Eh bien, Hans von Bülow était évidemment très ami avec Liszt. Il a créé la sonate de Liszt, mais il était très proche de Brahms et il a travaillé avec Brahms aux répétitions de son concerto. Écoutons un mouvement complet de ce concerto qui va trancher avec le choix que nous avons fait pour le premier concerto de ce mouvement lent et élégiaque. Là, nous sommes dans un mouvement tout à fait tonique et qui nous montre bien le sens de l'architecture et le dynamisme et la puissance de Johannes Brahms. Thank you.
extraordinaire mouvement de ce deuxième concerto. Venons-en maintenant à l'œuvre symphonique de Brahms, qui est réduite 4 symphonies, car plane au-dessus de Brahms, comme au-dessus d'autres compositeurs, l'ombre tutélaire du géant, du titan, c'est-à-dire de Beethoven. Hans von Bülow, d'ailleurs, dira de la première symphonie de Brahms qu'elle est la 10e symphonie de Beethoven. Mais Brahms va s'affranchir de cette tutelle mentale et à l'initiative toujours de Schumann, qui, depuis que Brahms l'a visité à 20 ans, le supplie d'écrire des symphonies. Brahms n'écrira sa première symphonie qu'à 44 ans. Je parlais il y a quelques instants de rumination, c'est un peu ça. Cette symphonie est jouée en 1885. Je parle de la 4e que nous allons écouter. Si vous avez du temps et l'envie, c'est intéressant d'écouter les 4 symphonies les unes après les autres. Il faut un petit peu de temps et de calme, mais c'est passionnant de voir cette évolution qui va toujours vers une maîtrise de plus en plus parfaite, de plus en plus belle de la technique de composition symphonique de Brahms. On n'est pas dans le spectaculaire, dans l'hypertrophie, dans la musique illustrative. On est dans une musique pure qui coule comme un fleuve. Je dirais que c'est une musique fluviale. C'est comme le Rhin qui parfois emporte tout sur son passage, fondé sur une charpente qui est le quatuor de l'orchestre, c'est-à-dire violon, alto, violoncelle et contrebasse, à partir duquel les bois vont s'épanouir, à partir duquel les cuivres vont se manifester, etc. C'est absolument magnifique. Écoutons la 4e, avec son dernier mouvement, le 4e, qui est donné à Leipzig en 1885, c'est, vous voyez, très tard, dirigé par Brahms. C'est un triomphe, c'est un délire, ce sont des rappels sans fin, et c'est cette musique, je dirais, rhénane, fluviale, qui emporte tout, avec, dans ce dernier mouvement, l'ombre d'une autre tutelle, celle de Jean-Sébastien Bach, puisque c'est un mouvement sous forme de chaconne, cette danse du XVIIe siècle, avec tout un ensemble de variations intégrées dans la composition. finirons cette évocation de la vie de l'œuvre de Brahms par son œuvre la plus longue, l'opus 45, donné en 1868, qui est son Requiem allemand. Requiem allemand que Brahms voulait aussi appeler Requiem humain. C'est un double hommage à un de des grands amis de sa vie, qui est Robert Schumann, et puis qui est disparu, et puis à sa mère aussi, disparue depuis peu. Ce sont des textes spirituels, certes religieux, tirés de la Bible, mais version luthérienne. C'est une prière humble et confiante que Brahms va mettre en musique sur 7 tableaux, 7 parties. C'est, contrairement aux autres requiem, un accent qui est mis sur la peine des vivants. L'accent est mis sur les vivants, bénis soit leur chagrin, qu'ils en soient soulagés. C'est une consolation que cette musique est censée leur apporter, avec un détachement des choses de la vie, une foi consolatrice. Il n'y a pas de peur, pas de frayeur, pas de dies irae, craignez la colère de Dieu. Ce n'est pas cela. C'est une foi consolatrice qui est apportée par Brahms aux vivants en pensant aux êtres qui lui sont chers, qui lui étaient chers et qui ne sont plus.
vous cacherons pas que Paul et moi prenons du plaisir à préparer ces émissions, mais là nous avons vécu d'indicibles souffrances pour procéder aux coupures dans les œuvres de Brahms, car les œuvres de Brahms sont longues, elles sont empreintes d'un souffle puissant, et vouloir les sectionner relève de l'exploit, ou en tout cas de la souffrance. Nous avons écouté aujourd'hui les variations sur un thème de Haydn par Herbert Plonsted, dirigeant le Concertgebouw d'Amsterdam, puis Hilarion, que je vous incite à regarder sur YouTube, tellement elle est magistrale et angélique, dans le concerto pour violon, avec Mikko Frank dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Puis le premier concerto de Brahms, tout au moins un extrait de son deuxième mouvement, par Émile Gillens et Eugène Rockum dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ensuite, le deuxième mouvement Allegro du concerto de Brahms numéro 2 par Christian Zimmermann, éblouissant sous la baguette de Leonard Bernstein lui-même, véloce et éblouissant, dirigeant le Wiener Philharmonic. Ensuite, un extrait de la quatrième symphonie, son quatrième mouvement, par Herbert von Karajan, dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et enfin, un court extrait du Requiem allemand, son second mouvement, avec un orchestre et des chœurs suédois, le Stockholm Sinfonietta et le KFUM Chamber Corps. Notre prochaine émission sera consacrée à un très grand musicien du début du XXe siècle, André Messager. Nous vous en dirons plus. Et bien d'ici là, passez un bon mois et à très bientôt.
À bientôt.
Sur Radio B, bien sûr.